Chapitre 4. Hélène, effarouchée, tremblait sans cesse. Les visites qu'on lui faisait, celles qu'elle attendait et qui ne venaient pas, le bruit, le silence, les appartements, la rue elle-même, tout lui faisait peur. À toute rencontre, elle tressautait. Son ancienne amie de pension, Cécile, mariée depuis longtemps dans la finance, vint la voir en grande cérémonie. Sous les minauderies et le papotage de la visiteuse, perçait une pointe de curiosité qui mettait Hélène à la torture. L'entrefilet du spectateur avait piqué la curiosité de Cécile, qui pourtant se résignait à partir désappointée. Elle était déjà debout quand elle se ravisa. « Oh, ces journalistes, dit-elle, n'ont pas le sens commun. » Quel est donc celui qui disait qu'on avait donné à l'affreux malheur qui vous a frappé, pauvre chérie, des proportions ? D'abord, je ne sais pas bien ce qu'on entend par des proportions. Hélène, effarée, répondit : Je ne vous comprends pas, je vous assure que je suis. Elle s'arrêta au bord d'une insondable maladresse. N'allait-elle pas protester de son innocence ? Elle fit rechercher le numéro du journal, le lut et ne dormit plus. Pendant ce temps, le parquet d'Avranches, saisi d'une affaire criminelle, l'instruisait minutieusement. Un sieur Reline, agent d'affaires assez mal famé, avait été trouvé assassiné dans son logis rue de Gèvres à Granville. Les charges pesèrent d'abord sur un ouvrier du port, ivrogne et débauché, qui s'était rendu chez Reline vers 5 heures du soir, la veille même de la découverte du cadavre. L'épicier, établi au rez-de-chaussée de la maison, avait vu cet homme descendre en donnant les signes d'une violente surexcitation. Mais, reconnu innocent après un long interrogatoire, il fut relaxé. Forcé de tourner ses recherches dans un autre sens, le juge d'instruction examina de nouveau le théâtre du crime. Il remarqua que les liasses de papier qui avaient été tirées du secrétaire après le crime, feuilletées rapidement et jetées sur le corps de la victime, formaient des groupes distincts, enveloppé chacun d'une chemise de papier laquelle portait un nom et une adresse. Cet amas de papier avait été prudemment laissé tel qu'on l'avait trouvé. On avait dégagé le corps de la victime avec de minutieuses précautions. Une de ces chemises, jetée par-dessus toutes les autres, et par conséquent au terme des recherches de l'assassin, était complètement vide. Elle portait la cote suivante, « Monsieur Groux, chez M. Havilland à Paris. » Le nom de Groux se retrouva, non à Granville, mais à Avranches, sur le registre de l'auberge du Cheval Rouge. Groux y logeait encore quand un mandat d'amener fut lancé contre lui et il fut arrêté. Hélène apprit cette nouvelle par les journaux après une nuit atroce. Elle l'avait vu, lui. C'était une apparition affreuse. Il se tenait devant elle, sans rien lui reprocher, sans lui marquer de haine ni de colère. Seulement, il se montrait à elle tel qu'elle l'avait fait, sous l'aspect épouvantable qu'il avait maintenant. Mais alors, comment vivre s'il revenait ainsi toutes les nuits ? Son père vint à l'heure du déjeuner. Elle se jeta sur lui avec un délire de tendresse et d'épouvante. Elle le suppliait les yeux. Elle le serrait si fort qu'il lui dit « Mais qu'as-tu donc ? Tu me fais mal !» Puis il déclara qu'il s'était toujours méfié de Gould et c'était une révélation bien inattendue. Le crime de ce misérable le faisait frissonner, disait-il. Mais il lui était venu dans la nuit une idée. Une inspiration. Il voulait retrouver Samuel Ewart. Il avait le matin même écrit à ce sujet à l'ambassade de France en Angleterre. Il poursuivait ses recherches. Et dans ce moment même, son regard aigu semblait vouloir percer la corniche. Hélène souffrait cruellement de le voir ainsi s'attacher aux choses du mort. Elle lui dit « Papa, est-ce que tu ne voudrais pas partir avec ta fille loin, bien loin ?»« Où ?» demanda-t-il dans sa bonhomie effarée. L'idée de s'éloigner du café de Colmar lui apparaissait comme la plus absurde et la plus monstrueuse impossibilité. Remis de sa surprise, il baisa Hélène sur le front. « Enfant !» murmura-t-il. Puis avec ses instincts de vie facile et de bonté indiscrète, il trouva ce qui eût pu retenir la jeune veuve à Paris. « Mais notre ami Longuemare, lui dit-il, ne se consolerait pas de ton départ. » Mais elle répondit gravement que M. Longuemare ne devait songer qu'à une jeune fille. Puis les mains jointes avec un éclat de voix sortit des entrailles. « mon Dieu !» s'écria-t-elle, « quelle chose impitoyable que la vie !» Il lui prit les mains et répliqua de sa voix grasse, « Ah, qu'il en dit-il, mon enfant !» Puis ayant déployé sur la table son portefeuille de chagrin, il s'isola dans la fumée d'un gros cigare et rédigea un mémoire pour Samuel Ewart absent. À partir de ce jour, les remords et les terreurs d'Hélène augmentèrent constamment, sans cause extérieure, par le seul travail de son cerveau blessé. Ses visions devinrent plus fréquentes et plus précises. Elle avait besoin de réflexion pour les distinguer de la réalité. À la suite d'un interrogatoire suivi par Groot, une perquisition fut ordonnée au domicile de l'inculpé. Un commissaire de police, assisté d'un serrurier, se présenta un matin à l'hôtel. On vint avertir Madame Haviland qu'il saisissait des papiers dans le pavillon du concierge et qu'il demanderait dans une heure ou deux à la maîtresse de la maison la faveur d'un moment d'entretien. Hélène reçut cette nouvelle comme un coup de maillet. Elle voyait dans sa chambre, distinctement, son mari décomposé, mais correct, très calme et très content. Elle le voyait, il était assis, feuilletait une revue, semblait tranquille comme un homme rentré chez soi. Bien que ses yeux fussent entièrement délayés et tout mêlés de terre, il aperçut un brin de fil sur le tapis de la table et l'ôta délicatement, comme il faisait tous les jours quand il vivait, puis il disparut. Alors les terreurs d'Hélène changèrent. Dans son ignorance des choses, elle s'imagina la justice acharnée contre elle, lui arrachant l'aveu de ses plus secrètes pensées et l'envoyant sur le même échafaud que le domestique Groot. Tout ce qu'elle avait lu du supplice de Marie-Antoinette lui revenait à la mémoire. Elle sentait sur sa nuque le froid des ciseaux du bourreau. La folie de la peur l'envahit tout entière. Les frôlements de son peignoir la faisaient s'évanouir à demi. Vers 10 heures, elle entendit un claquement de porte. Elle ouvrit la fenêtre pour se tuer ou se sauver. Elle n'en savait rien. C'était son neveu Georges qui revenait, comme à l'ordinaire, du collège. Il jeta ses livres avec mauvaise humeur sur la table et par hasard regarda sa tante. « Pourquoi tu as de grands yeux aujourd'hui ?» lui dit-il. Il ouvrit ses livres, comme à l'ordinaire, en attendant le déjeuner et se plaignit avec une moue de mauvais écolier d'avoir à faire une préparation grecque. Puis, assis sur son pied, à un coin de chaise, le menton sur la table trop éloigné, il se mit à feuilleter mollement son dictionnaire. Malgré ses grimaces, il traduisait assez bien, Il faisait en écrivant des taches d'encre qu'il effaçait ensuite avec sa langue. Elle écoutait stupidement tous les bruits et tressaillit aux coups de pied que l'enfant lançait contre les bâtons de sa chaise. Il imitait la voix grave et le ton guindé de son professeur. Remarquez, messieurs, l'harmonie des vers de Sophocle. Oh, nous ne savons pas comment on les prononçait, mais nous les prononçons tout de travers. Mais quelle harmonie! Monsieur Labrunière, vous me conjuguerez 10 fois le verbe didomi. Quelle harmonie! Puis, avec sa voix flûtée, maintenant, je te promets que mon professeur met des faux cols en papier. Nous l'appelons Python. Sais-tu pourquoi? Ben, je vous ai dit, messieurs, Python était un monstre d'une laideur répugnante et d'une malignité insigne. Alors là, Brunière, il a crié tout bas. C'est comme vous! Oh, il est fameux, la Brunière! Dis donc, ma tante, sais-tu que t'es une très belle femme? Puis ses idées, après tant de sautillements, se posèrent sur le texte grec. Il faisait le mot à mot et, comme un oiseau jaseur, remplissait la chambre de sa voix claire, disant tout haut les mots grecs et français qu'il écrivait et s'interrompant pour compter les billes. Kara Theion, la tête divine, Iocastes de Zocaste, Tetneken est morte. Ben, comme c'est bête. Elle a là prostalekenumfica, vers les couches nuptiales, c'est-à-dire vers la chambre à coucher. Remarquez, messieurs, quelle heureuse expression et quelle harmonie. Sposa comen, déchirant sa chevelure, Kaki, elle l'appelle, Lion Laius, Necron mort. Vois-tu, ma tante, en français, un laïus, c'est un sermon, mais en grec, c'est un bonhomme que Jocaste avait épousé, et ce mariage n'avait pas réussi. S'arrachant les cheveux, elle appelle Laïus mort. Hélène, à travers ses balbutiements de grec et de français, démêlait une antique et noble histoire de femme désespérée. Lui, échauffé près d'en finir, se hâtait. Seidomentin, gnaika cremalten, nous vîmes la femme pendue. Il fit un paragraphe qui trouva le papier, tira sa langue toute violacée d'encre, puis il chanta pendu, pendu, j'ai fini. Hélène se leva, toute droite, et monta dans sa chambre avec une allure si calme, si précise, si certaine, qu'elle semblait la figure de la nécessité. Enveloppée de son châle noir et de son voile de veuve, elle descendit par l'escalier de service. En voyant la rue, elle fut éblouie et chancela. La clarté de cette matinée était étrangement diffuse. La lumière, répartie sur tous les objets, les éclairait avec une extrême netteté. Les voitures, les arbres, les kiosques des marchands de journaux et les passants les plus éloignés restaient si précis, malgré leur petitesse, qu'on eût dit les avoir sous la main. Cette clarté fut très pénible à Hélène, qui ne regardait rien et voyait tout. Les objets les plus insignifiants pour elle, comme les numéros des fiacres et les lettres des enseignes, se gravaient dans ses yeux avec des détails fatigants pour des nerfs malades. Tout ce qu'elle voyait lui semblait entrer en elle brutalement et la blesser. Elle était tentée de reculer, mais elle ne pouvait s'arrêter. Non, jamais la pensée ne fut aussi complètement abolie dans une personne vivante. Et elle marchait comme irrévocablement déterminée. C'est que, tout à l'heure, une idée lui était venue, simple, claire et si définitive, qu'elle avait exclu toute autre idée. Elle allait, ne se sentant pas même marcher, croyant volé et pourtant bien faible, incapable d'un geste volontaire. Elle allait. Devant elle, une fillette trottait en portant un enfant, une boîte au lait. Hélène épiait les gouttes blanches qui tombaient une à une sur les dalles du trottoir. Tout ce qui lui restait de faculté s'appliquait à ce lait répandu. À chaque gouttelette échappée, elle ressentait une inexplicable impression d'angoisse. Quand elle atteignit les quais, la large étendue ouverte devant elle, le poudroiement de la lumière sur le fleuve et le souffle frais errant sur les eaux lui tirèrent un soupir. Elle hésita une seconde, mais tournant à droite, elle reprit sa course. Le quai d'Orsay était tout parfumé d'une odeur de jardin. Elle allait. De la rue du Bac au Port-Royal, une file d'hommes affairés, d'ouvrières agiles, de fiacres, d'omnibus lui barrait le passage. Elle prit le pont, sans regarder l'eau, tourna encore une fois à droite, descendit sur la berge, traversa entre un massif de saules la passerelle des bains et entra dans le bateau plein d'une odeur chaude et de goudron. Elle attendit tranquillement, mordillant la pomme de son ombrelle, que la fille en tablier blanc eût préparé son bain. Elle était très calme. Elle entra dans la cabine et dit qu'elle sonnerait quand elle aurait besoin d'un peignoir. Dès que la petite porte se fut refermée sur elle, elle ouvrit d'une brusque secousse la fenêtre dont elle écarta les rideaux de calicot et respira largement. Devant elle, la Seine agitait ses petites lames étincelantes. Du bateau des blanchisseuses, amarré à l'autre rive, partaient les coups sourds des battoirs. Un bourdonnement montait de l'enclos bariolé des bains d'hommes. Elle embrassait ce spectacle clair d'un regard indolent qui semblait heureux. Ses épaules serrées par le châle de cachemire noir, son voile de veuve relevé sur le chapeau et flottant autour de sa tête comme un nuage funèbre, elle était plus belle que jamais et une volupté calme s'exhalait de toute sa personne. Un clapotement d'hélice s'approcha et grandit. Le ponton des bains oscilla légèrement, et un bateau-mouche, allant au point du jour, passa devant elle si près qu'elle entendit les voix des passagers. Deux jeunes gens, d'allure vulgaire, appuyés au bordage du pont, la lornière avec une intention libertine, en songeant sans doute à sa toilette qu'elle allait défaire. Elle les remarqua. Elle entendit l'aîné des deux, qui était blond avec des plaques rouges sur la face, dire à son camarade « Ah, la belle femme, on se l'a !» Mais déjà le bateau passait, cheminée abaissée, sous l'arche du pont royal. Fût-ce dédain ou contentement, les coins de sa lèvre se soulevèrent et commencèrent un sourire. Elle était calme, son regard flottant, très doux, sans inquiétude. Elle releva ses beaux bras par un geste gracieux qui eût troublé bien des hommes, se passa les doigts sur le front. Puis elle se détacha avec indifférence de ce qu'elle voyait et referma la fenêtre. Il était midi. À 2 heures, elle n'avait pas sonné. À 2h10, la fille de service, surprise de n'être pas encore appelée, ouvrit la porte de la cabine et demanda si madame n'avait pas besoin de quelque chose. Il n'y avait personne dans la baignoire, mais en face, entre la fenêtre et la glace, une grande forme noire pendait. La fille s'enfuit en criant au secours. Hélène Havilland s'était pendue avec une cravate de son neveu au porte-manteau. Elle avait gardé sur ses épaules le châle que René lui attacha un mois auparavant sous la tonnelle à Meudon. Ses genoux étaient infléchis et la pointe de ses bottines touchait le parquet. Une chaise placée sans doute à dessein à la gauche du corps le faisait dévier et l'empêchait de porter d'aplomb sur le sol. Le voile de veuve recouvrait le visage. On le souleva. La face était huméfiée, la langue noire et gonflée sortait de la bouche. Le commissaire de police, appelé sur les lieux, fit cette réflexion. « J'ai vu bien des femmes suicidées, mais c'est la première fois que j'en vois une pendue. » Longuemare, profondément atteint par cette disparition hideuse et louche de la femme qu'il aimait, ne parut pas d'abord accablé. Il fit de la médecine avec rage, mais il devint sombre, brutal, dur. Il ne montrait de bon que son zèle et son intelligence de praticien. Querelleur avec ses camarades et cynique avec les femmes, il laissa toutes les complaisances et resta seul. Son impatience devint telle qu'il ne pouvait prendre un repas dans sa crèmerie sans se quereller avec le garçon, le patron et la demoiselle de comptoir. Sur une parole brusque du médecin en chef de l'hôpital, il donna sa démission de chirurgien militaire et tomba un beau jour chez son père au fond des Ardennes, sans livres, sans linge, avec une barbe de 3 semaines et l'air maussade. L'ancien agent voyait, petit vieillard sec, taillait ses arbres, mettait son vin en bouteille, scellait les carreaux branlants des salles, fendait du bois, allait, venait, prenait en grande considération toutes les choses de la vie. Il haussait les épaules en voyant son fils étendu tout le jour dans le jardin, une pipe éteinte à la bouche et un chapeau de paille crevé sur le nez. Un jour, après le dîner, il confia à son fils qu'il avait une grosseur au bras dont il ne souffrait pas, mais qui semblait augmenter. Il demanda ce qu'il fallait faire. « Rien !» répondit René en tournant les talons au bonhomme indigné. Souvent, une binette ou un sécateur à la main, le vieillard affectait de passer par hasard près du tas de foin où son fils était vautré. Parfois, il lui disait « Mais si tu es malade, va te coucher dans ton lit !» Ou bien « Si vient du monde, je t'engage dans ton intérêt à prendre une autre tenue !» René prit l'habitude de sortir après chaque repas. Il allait, tout proche, s'étendre dans les ajoncs, sur les bords ravinés d'une petite rivière. Il ne rêvait même pas. Tout lui semblait pénible, absurde, mauvais. Sa douleur était sans charme, sans beauté. Il resta quelques semaines dans cet état. Un jour qu'il bâillait stupidement au bord de l'eau, il vit des enfants qui se glissaient tout nus, avec des mouvements maladroits et jolis, d'une pierre à l'autre dans le lit de la rivière. Ces petits êtres à crin jaune, avec des faces rouges, qui riaient, s'appelaient, se repoussaient, criaient, faisaient clapoter l'eau, mettaient de la gaieté dans l'âpre paysage. Longuemare eut tout d'un coup une idée. Il les appela, mais eux, pour s'enfuir, s'accrochaient des mains et de genoux aux pierres moussues, glissaient sur le fond vaseux, faisaient des plongeons et n'avançaient guère. Un d'eux, tapi dans la fente d'un rocher qui surplombait la rivière, s'y croyait caché. René vint l'y surprendre et le tira de son trou comme une anguille. Sans doute, il n'avait pas l'air bien méchant car l'enfant n'eut plus peur. « Veux-tu bien m'écouter, petit sauvage ?» lui dit le chirurgien. « Si tu veux gagner des sous neufs, apporte-moi des grenouilles. Tu dois savoir attraper des grenouilles. Je demeure là-bas, chez le père Longuemare. Quand il eut des grenouilles, il ne quitta plus sa chambre, qui s'emplit d'une forte odeur de pharmacie et de tabac. Le père Longuemare, en sarclant ses plates-bandes, regardait avec satisfaction la petite lucarne d'où pendaient au bout de fil de laiton des grappes de grenouilles mutilées. Maintenant que son fils travaillait, il avait pour lui une sorte de respect religieux. Il se faisait petit dans la maison et n'y marchait plus que sur la pointe des pieds. Il défendait à la servante de faire le lit là-haut pendant que monsieur travaillait. Un jour à table, en pelant une poire, il dit à son fils: « Est-ce que je pourrais pas t'aider à préparer tes grenouilles? N'as-tu pas besoin, par exemple, que je taille des planchettes? Je pourrais te les peindre et même y coller une couche de sable fin. » Mais coller du sable fin sur des planchettes, et pourquoi faire? Le père expliqua qu'il pensait que son fils empaillait des grenouilles et en faisait des groupes artistiques. J'ai vu, dit-il, à Paris, dans des boutiques des naturalistes, des grenouilles préparées très habilement. Elles faisaient mine de se battre en duel et tenaient des petites épées de bois. Il y en avait aussi qui jouaient au piquet avec des miniatures de cartes et d'autres qui buvaient sous une tonnelle dans des verres de poupée. Oh, c'était très, très ingénieux. Je croyais, mon garçon, que tu travaillais à quelque chose de semblable. Il fut très désappointé quand il apprit que son fils faisait des expériences. C'était à ses yeux des enfantillages bons pour les écoliers. Depuis lors, sa figure s'allongea de nouveau, et quand, dans son jardin, promenant l'œil du maître sur toute la maison, il apercevait des grenouilles pendues à la lucarne, il branlait la tête en signe de pitié. Un matin, René lui annonça qu'il partait. Les deux hommes se firent pour les adieux une voix rauque et brève, un front impassible, une attitude raide, et ils se séparèrent avec une fermeté maussade. Mais tandis que le vieux père, en regagnant sa maison, pleurait dans son mouchoir à carreaux, le fils, étendu sur la banquette de la voiture de troisième classe, s'essuyait les yeux en bourrant sa pipe. À la station de Reims, deux jeunes gens, des employés de commerce sans doute, entrèrent dans son compartiment. L'un des deux lisait le petit journal et faisait part à l'autre des nouvelles les plus importantes. La crise ministérielle continue. Une explosion a mis en émoi le quartier du Gros Caillou. Le nommé Groot, juste désiré, a été exécuté ce matin à 6 heures sur la place du marché à Granville. Qu'est-ce qu'il avait fait? Demanda l'autre. Oh, il avait assassiné un vieillard. On l'accusait aussi d'avoir empoisonné un riche anglais, mais ce second crime n'a pas été prouvé à l'audience. Tu te rappelles pas l'affaire Groot? Non, dit l'autre. Et après une minute de silence, y a-t-il des détails? Ils lurent à mi-voix. Dès 4 heures du matin, la fatale machine. Longuemare n'entendit pas le reste. Le propriétaire du journal plia sa feuille et dit: jusqu'au dernier moment, il a protesté qu'il n'avait pas frappé sa victime avec préméditation. T'es égal, hein, c'était un fameux gredin. Mangerais bien un morceau, et toi? Longuemare vécut à Paris dans une torpeur stupide. Il lui restait de son traitement en Cochinchine quelques centaines de francs qui le dispensaient de tout effort. Il se levait à midi et allait s'asseoir sur un banc du Luxembourg, au milieu du tourbillon des feuilles mortes dans le vent d'automne. Il se tenait la tête dans les mains si longtemps que les poings restaient marqués dans les joues. Les premiers froids achevèrent de l'engourdir. Il traîna ses journées d'hiver dans la salle étouffante d'un petit café, sans même lire les revues ni jouer au billard. Il rencontra là, au printemps, une figure de connaissance, Nouillac, gros garçon velu à demi-paysan, qui, ayant trouvé des écus dans un sabot de feu son père, cultivateur en Auvergne, faisait sauter le sac avec des appétits de goinfre et une ladrerie de vilain. Il touchait à la quarantaine et redevenait sérieux. Ayant racheté dans son pays une source thermale oubliée, avec son établissement moisi, il avisait aux moyens d'y ramener les baigneurs. Il avait ses poches bourrées de flacons d'eau minérale et de prospectus illustrés de vignettes représentant des thermes romains et une piscine du XVIe siècle d'après une ancienne miniature. Tendant une bouteille à longue mare, thermale, sulfurée, chlorurée, sodique, arsenicale, lodobromurée et gazeuse, lui dit-il. Puis il déroula tout au long son affaire. L'établissement était situé à 50 km de Clermont, au bord d'un lac, au pied d'une superbe pyramide de basalte. 15 ou 20 chevriers, 30 goitreux ou goitreuses, peuplaient le village. Nouillac possédait du chef de son père 3 ou 4 masures qui, repeintes et closes, deviendraient des cottages pour les étrangers. L'hôtel de César, situé en face de l'établissement, pouvait contenir de 30 à 40 voyageurs. On songerait plus tard à établir un casino. Il commençait petitement, mais qui sait si dans l'avenir. Finalement, il demanda à Longuemare s'il voulait être des leurs. « Venez, lui dit-il, vous serez le médecin de l'établissement. » Il avait pour les talents médicaux de l'ex-chirurgien militaire une haute estime, inspirée par l'opinion unanime de leurs amis communs. Tous les camarades de Longuemare lui connaissaient l'œil et la main d'un maître. Il répondit à Nouillac, « Vos bains sont dans un trou, il n'y viendra jamais que quelques scrofuleux ou d'artreux européens qui achèveront d'y moisir. Si j'y vais, c'est pour y rester hiver comme été. » Il accepta, sans discussion, les faibles appointements offerts par Nouillac, lequel considérait le médecin de l'établissement comme déjà rémunéré par la nombreuse clientèle internationale qui ne manquerait pas de se faire. Le lendemain, Longuemare fit des courses à travers Paris pour acheter le peu d'habits, d'instruments et de livres qu'il lui fallait. Vers 5 heures du soir, comme il descendait l'avenue des Champs-Élysées, il s'arrêta devant un théâtre de Guignol. Un triple rang de curieux pesait sur la corde passée au tronc des arbres pour fermer l'enceinte réservée aux spectateurs assis et payants. En arrière, les petits enfants contemplaient avec découragement, entre les jambes d'un militaire, la jupe de leur bonne. Il reconnut, dans la foule des spectateurs, mais un peu à l'écart, un vieillard voûté, lourd, bouffi de mauvaise graisse et dont le visage blafard gardait une inertie désolée. Il portait une redingote jaunâtre au collet et aux épaules, et qui, remontant par derrière, laissait pendre sur le devant la pointe de ses deux pans. Ce vieillard regardait Guignol, ou plutôt fixait dans sa direction, entre ciel et terre, un regard tout particulier. Longuemare, en reconnaissant M. Feller de Sizac, se sentit remué, et tous ses souvenirs remontèrent ensemble à la surface de son âme. Monsieur Feller lui serra la main en cherchant une phrase qu'il ne trouva pas. Longuemare, avec je ne sais quelle pitié, quelle tendresse brusque, lui dit « Allez, venez, je vous emmène. » « Cela se trouve bien, » répondit Monsieur Feller. « Justement, je n'ai pas d'affaires ce soir. » Il dit qu'il demeurait rue Truffaut, fond des Batignolles. « Ce n'est pas très central, » ajouta-t-il, « mais avec les tramways. » Ils s'assirent à la brume dans la salle enfumée d'une gargote de la rue Montmartre. Ils se regardaient, surpris, ne sachant plus s'il y avait un jour ou 100 ans qu'ils ne s'étaient vus. Ils ne parlaient pas d'elle, mais tous deux la voyaient à leur côté. Longuemare, en cassant des noisettes, dit qu'il partait pour le Mont d'Or et ce qu'il y allait faire. Il redit simplement « Je vous emmène ?» Le vieillard roula des yeux effarés. « Quitter Paris, s'écria-t-il, ce n'est pas possible. Et les affaires, on ne vit qu'à Paris. » Longuemare, navré de pitié, ne put s'empêcher de sourire. « Mais venez donc, là-bas, vous serez inspecteur, contrôleur, régisseur. » Ces titres frappèrent la pauvre tête du vieillard qui déclara que son concours était acquis à une entreprise dont et pour laquelle, enfin, que si son expérience pouvait être de quelque utilité. Et il prit rendez-vous pour le lendemain. Longuemare, en repassant le pont, songeait « C'est plus fort que moi, je me figure qu'il est mon beau-père. » La saison des bains ne fut pas trop mauvaise pour Nouillac. Quelques Russes et une famille de Lyonnais vinrent prendre les eaux à son établissement. Monsieur Feller se tenait près de la source et goûtait l'eau d'un air capable. Ses attributions n'étaient pas bien définies. Nouillac n'aurait certainement pas admis Monsieur Feller dans son personnel. Il le payait toutefois, mais avec l'argent de Longuemare. « Faites-lui croire que vous lui donnez des appointements, » avait dit le médecin, « et surtout cachez-lui bien que ce sont les miens qu'il touche. Quant à moi, je m'arrangerai. » Il donna quelques consultations à des Russes et fut appelé dans la montagne pour quelques pieds d'émis le dimanche au sortir du cabaret. Les voyageurs partirent avec les hirondelles, non comme elles, en compagnie, mais par couple ou seuls, les uns après les autres. L'hiver vint. La neige couvrait la vallée. Sur les prismes du porphyre et les anfractuosités noires des puits de granit, la glace pendait en stalactites. Sur les bancs, la brume faisait voir les sapins agrandis et vagues comme des fantômes. L'horizon était fermé par une mer de ténèbres. Sur les murs de l'établissement thermal, les peintures rouges et brunes de gouttes antiques s'écaillaient. En face, dans la salle basse de l'hôtel de César, M. Feller jouait au domino avec l'hôtelier. Longuemare, les pieds sur les chenets, fumait sa pipe. Il se tâta le poignet gauche avec le pouce droit, puis, se parlant tout bas à lui-même, fièvre, murmura-t-il, tension et douleur aiguë dans l'hypocombre, tout, oppression, douleur sympathique dans l'épaule droite, rien n'y manque, c'est une belle hépatite que j'ai là. Et pour la première fois depuis 1 an, 4 mois et 6 jours, il sourit.